On a un élève qui est un élève tout à fait ordinaire.
Je l'ai vécu comme une belle expérience et une expérience positive pour la classe.
Les troubles de la fonction auditive. Un entretien réseau Canopé avec Karen Bellman, médecin ophtalmologiste à Paris.
Karen Bellman, quels sont les critères qui définissent les troubles des fonctions visuelles ?
Donc les critères principaux, ce sont les mesures comme l'acuité visuelle et le champ visuel. Avec ces résultats obtenus, on peut définir des catégories différentes de la déficience visuelle qui sont définies entre autres par l'OMS. Et ces critères sont appliqués pour distinguer des groupes différents de la déficience visuelle. On décide d'une déficience visuelle légère, d'une déficience visuelle plutôt modérée, ensuite profonde, une cécité légale, ça veut dire on peut encore percevoir des choses autour de soi, des grandes formes par exemple, et ensuite il y a la cécité totale, on ne peut plus même voir la lumière.
D'accord. Donc, quelles sont les différentes formes de troubles de la fonction visuelle ?
Il y a de différentes formes de troubles visuels. On peut perdre, par exemple, on a parlé de champ visuel. Donc, effectivement, le champ visuel peut indiquer comment est-ce qu'on peut percevoir l'environnement autour de soi. Et si une perte est de perdre au centre de son champ visuel, ça veut dire qu'on perd la vision fine. On ne peut plus voir les couleurs, on ne peut plus voir les détails. Par contre, la vision globale est encore existante. Ensuite, on peut perdre aussi en périphérie du champ visuel, les capacités visuelles. On parle dans ce cas plutôt d'une vision tubulaire. On a beaucoup de mal pour se déplacer, par exemple, parce qu'on ne peut plus voir les mouvements sur le côté, on ne voit plus ce qui se passe au côté de soi. Et ensuite, un autre grand groupe, c'est aussi que la vue peut être très floue. Comme si quelqu'un qui a, par exemple, des lunettes, et si on enlève les lunettes, la vue globalement est floue. Et on peut à peu près imaginer une déficience visuelle juste avec une vue floue de cette façon-là.
Alors, que se passe-t-il pour l'enfant selon la manifestation de son trouble ?
Donc, il faut effectivement revoir à nouveau comment l'élève ou le jeune peut voir. Avec une cécité totale, on peut bien imaginer que la vie est très compliquée parce que la vue est le sens majeur. Donc, on perçoit à peu près 80% de nos informations dans notre société par le sens de la vue. Pour un élève qui ne voit pas du tout, vous pouvez bien imaginer que la tâche est très lourde de compenser cette manque d'informations par exemple, l'audition ou le toucher. Là, effectivement, les adaptations sont pas faciles. On doit, par exemple, parler du braille si on parle d'une moyenne pour écrire et pour lire. Après, il y a beaucoup d'élèves qui ont juste une déficience visuelle légère ou modérée. Il faudra plutôt penser à agrandir des manuels, préparer des copies avec des bons contrastes. Mais en tout cas, dans la classe, le professeur, il doit toujours parler ce qu'il écrit sur le tableau. Parce que, comme je dis, les élèves ou les personnes avec une déficience visuelle dépendent beaucoup de leur audition.
Alors vous nous disiez donc que selon le trouble, un enfant peut perdre de 80 à 90% des informations. On peut se poser la question de savoir si ces troubles ont d'autres impacts. Par exemple, est-ce que cela peut avoir des impacts sur le développement des interactions sociales chez l'enfant ?
Bien sûr, comme je dis, si on ne voit pas ou très peu, on n'arrive pas à percevoir ce qui se passe autour. Parfois aussi, l'élève peut être en colère à cause de ça. Donc l'élève a beaucoup plus de mal pour participer à la vie dans la classe parce qu'il ne peut pas forcément partager les documents avec les autres élèves. En tout cas, pour un élève avec une déficience visuelle légère ou complète, toujours la vision de loin est très compliquée et effectivement, le professeur doit faire attention à ça. Aussi, c'est très compliqué dans les cours de sport, par exemple. Les élèves avec une déficience visuelle ne peuvent pas voir les ballons à l'heure, il faut faire beaucoup plus attention aux blessures, aussi aux cours. Ensuite aussi, parfois, les changements de luminosité sont compliqués pour les élèves. Si, par exemple, les élèves sortent de la classe dans un couloir, l'élève a besoin parfois plus de temps pour s'habituer. Et effectivement, peut-être il y a des bousculades derrière. Tout ça, certainement, a des conséquences aussi sur la vie sociale de l'élève à l'école. Oui.
Alors, comment les professeurs peuvent-ils accompagner la scolarisation des enfants ayant des troubles de la fonction visuelle pour que leur scolarité se passe dans le meilleur des cas ?
À nouveau, le professeur doit toujours parler à l'oral en même temps. Il doit faire attention à l'emplacement de l'élève dans la classe. J'ai parlé de la vision de loin, qui est toujours très compliquée pour les élèves avec une déficience visuelle, même si elle est légère. Il doit en général rester au premier rang, proche du tableau. Il faut éviter qu'il y ait trop de bruit dans la classe. À nouveau, l'élève dépend beaucoup de son audition. Il faut adapter correctement les manuels et il faut faire attention que l'élève peut participer à la vie globale de la classe. Donc il faut toujours l'inclure dans le groupe et faire peut-être un peu plus attention ou aussi demander à l'élève est-ce qu'il y a quelque chose qui manque pour participer éventuellement.
Alors on parle de la vie dans la classe, mais autour de cette vie dans la classe, il y a également toute une vie en récréation, les déplacements pendant les intercours, les déplacements pour aller à la cantine. Alors là, quelles sont les attentions qu'il faut avoir pour ces enfants?
C'est très, très, très compliqué, particulièrement les self dans les classes, c'est extrêmement compliqué. Souvent, les élèves aussi sont équipés d'une canne pour se déplacer mieux, mais vous pouvez bien imaginer, on ne peut pas porter son plateau si on a une canne dans l'autre main. Donc globalement, je dirais une personne avec une déficience visuelle ou toujours une personne avec un handicap doit apprendre dans sa vie de demander d'aide quand cela est nécessaire. Toute seule, c'est très compliqué. Donc l'élève doit apprendre soit de demander d'aide à son professeur, soit à un camarade de classe, mais ne pas le laisser seul.
Et la place de l'AESH pour les enfants qui ont ces troubles?
Il y a une fois par an des réunions qui s'appellent équipe de suivi de scolarisation. Pendant cette réunion, il y a en général tous les professionnels concernés pour discuter avec la famille, l'élève et les représentants de la MDPH pour décider quelles sont les aides nécessaires que l'élève peut réussir pour sa vie scolaire. Là, entre autres, on définit quelles aides optiques sont nécessaires, quels agrandissements sont nécessaires, quels accompagnements sont nécessaires. Les élèves ont des personnes accordées, les personnes qui s'appellent AVS. On peut déterminer les heures. Parfois, les heures sont juste données pour certains cours qui sont plus compliqués quand il y a des travaux pratiques à faire. Toutes ces choses-là sont discutées en général avec la MDPH et décidées en lien avec la famille et le jeune.